Les deux orphelines, troisième partie, chapitre 2. Le singulier domestique que nous avons présenté à nos lecteurs sous le nom de Picard avait pris, en venant chez le comte de Lignières, une résolution inébranlable. Cet original s'était décidé à quitter le service du chevalier de Vaudreuil, d'un maître qui, selon lui, rompait d'une façon véritablement par trop scandaleuse avec les grandes traditions. Certes, il avait été bien trompé, pensait-il, dans ses espérances de valet de confiance. Le chevalier de Vaudreuil, devenu homme, n'avait pas tenu ce que promettait son adolescence. Tout ce tempérament de viveur, toute cette ardeur qui se lisait dans les yeux du jeune homme, tout cet entrain pour le plaisir, toute cette fougue, enfin, qui faisait espérer un avenir gros de plaisir, d'amour, de querelles, de nuits passées à table, soit à sabler le champagne, soit à faire circuler des poignées d'or sur le tapis vert, tout cela s'était évanoui comme au souffle de quelque mauvais génie. 100 fois, M. Picard avait été sur le point de prendre définitivement sa retraite de valet de chambre. Mais un retour triomphant des passions mauvaises dans l'esprit du chevalier lui redonnait de l'espoir. Et pendant quelque temps, le sceptique, en livré, se réjouissait de voir son jeune maître redevenir le perverti de ses rêves. Il mettait son point d'honneur à servir un écervelé, un roué, un duelliste, un gardement piétinant sans scrupule sur les cœurs trop confiants, en ayant soin de mettre le sien à l'abri des amours honnêtes. Et l'attitude plus qu'incorrecte, toujours d'après lui, du neveu de M. de Lignières ne pouvait plus lui convenir. Aussi, comme depuis 3 mois environ Picard n'apercevait son maître que pour lui trouver, chaque jour, l'air de plus en plus triste, comme il ne recevait plus de ses confidences qui, autrefois, lui prouvaient à sa grande joie que le chevalier allait faire une pointe au pays de la Prétentaine en passant par Cythère, comme enfin Roger de Vaudreuil avait tout l'air d'un malheureux qui nourrit quelque amour pur et vertueux, Picard, avons-nous dit, aurait cru manquer à tout son passé et faire tort à sa dignité s'il persistait à rester au service d'un gentilhomme qui se rangeait pour de bon au risque de faire tressaillir, là-haut, les mânes de toute une collection de nobles ancêtres qui, de leur vivant, avaient été d'aimables coureurs de ruelles, rossant le guet et se faisant litière de l'honneur des jeunes filles. C'est donc pour faire part au comte de Lignières de sa résolution de ne plus rester au service du chevalier que ce digne Picard s'était rendu chez le lieutenant de police. En l'apercevant par l'entrebâillement de la porte, M. de Lignières eut un geste de satisfaction. « Ah, c'est toi, Picard, » dit-il. « Tu viens à propos, et je suis content de te voir. »« Monseigneur est bien bon, » répondit le vieux domestique, dont la physionomie avait pris un air quelque peu embarrassé. « J'ai à te parler de ton maître. » Ces mots firent dresser l'oreille à M. Picard. « Oh, mon maître !» grommela-t-il en hochant soucieusement la tête. M. de Lignières s'était retiré du côté de la porte qui faisait communiquer son cabinet de travail avec son appartement par un couloir par lequel on arrivait également à l'appartement de la comtesse. Ce jeu de scène indiquait chez le lieutenant de police une préoccupation. C'est qu'effectivement, le comte voulait éviter que la tante affectionnée de Roger entendît de quelle façon sévère il allait stigmatiser la conduite de l'adversaire de feu le marquis de Presles. L'attitude, d'ordinaire si mélancolique, de la comtesse était devenue encore plus inquiétante aux yeux de l'époux depuis l'aventure tragique dans laquelle Roger de Vaudreuil avait joué par malheur un rôle si compromettant. Madame de Lignières avait su gré au lieutenant de police de la mansuétude du roi à l'égard du jeune gentilhomme qui contrevenait d'une façon si grave aux édits sévères promulguée contre les duellistes. Mais si elle n'avait plus à redouter pour Roger le châtiment qu'il avait encouru, la comtesse n'en avait pas moins vu s'augmenter son état de tristesse. Roger avait pour ainsi dire déserté l'hôtel de M. de Lignières par déférence pour le lieutenant de police, dont il ne voulait pas, par sa présence, aviver la gêne provoquée autant par son aventure que par l'impunité dont le coupable avait été l'objet. Par un sentiment de délicatesse facile à comprendre, M. de Lignières avait toujours évité avec sa femme toute conversation relative à ce neveu qui bénéficiait de tant de circonstances atténuantes dans l'esprit de la comtesse. C'est donc pour éviter que ce qu'il avait à communiquer à Picard pût être entendu que le lieutenant de police avait pris la précaution d'aller s'assurer, en entr'ouvrant la porte, que personne ne se trouvait dans le couloir. Cette préoccupation de M. Lignière n'avait pas échappé au vieux Picard, et il pensa que le hasard, en l'envoyant ce matin même à l'hôtel de la lieutenance générale de police, avait servi à souhait les désirs du comte. Convaincu qu'il pouvait désormais parler en toute sécurité, M. de Lignière s'approcha de Picard, répondant à la dernière réplique du vieux serviteur. « Il se conduit bien, M. Roger » articula-t-il avec une exclamation. Se trompant sur le sens que M. de Lignière avait voulu donner à sa phrase, Picard s'empressa de surenchérir. « Il se conduit d'une façon scandaleuse, monseigneur !» Ce fut le tour du lieutenant de police de se faire illusion sur la pensée réelle de son interlocuteur. « Oui, scandaleuse » reprit-il. Le domestique, enchanté qu'on vint ainsi au-devant de la déclaration qu'il avait à faire et qui lui coûtait fort, continua. « Et comme c'est monseigneur qui m'a placé près de son neveu... Que veux-tu dire? Je viens demander à monseigneur la permission de quitter le service de monsieur le chevalier. » M. de Lignière eut un haut-le-corps. « Quoi? Tu veux ? » commença-t-il. Il regardait Picard dans le blanc des yeux avec une surprise mêlée de tristesse. Le serviteur avait donné à sa physionomie un air tout à fait sérieux. « Oui, monseigneur, » fit-il en plissant son front pour témoigner du regret qu'il éprouvait. « Monsieur le chevalier a des principes que je ne puis accepter. » Cette fois encore, le comte comprit mal, car il ajouta vivement, comme pour rassurer le domestique sur l'avenir. « C'est bien, Picard, je te reprends à mon service. » « Au service de monsieur le comte ? » s'exclama le valet tout joyeux. « Ah, je respire !» Et manifestant assez familièrement la satisfaction qu'il éprouvait, il ajouta en se frottant les mains. « Ah, je renais ! Je rentre enfin dans ma dignité !» Monsieur de Lignière, en dépit de ses graves préoccupations, ne put s'empêcher de sourire à cette exubérante manifestation. « Seulement, » fit-il en redevenant grave, « je ne te délivre pas tout de suite. Ah ? Non, je désire avoir auprès du chevalier, pendant quelque temps encore, une personne de confiance qui le surveille. » Picard était visiblement contrarié. Monsieur de Lignière continua. « Qui me rende compte de ses démarches ?» Le valet se gratta le bout du nez comme un homme qui vient de trouver une bonne malice à faire pour se tirer d'embarras. « Je devine ce que tu vas me dire, » poursuivit le comte. « Oui, j'aurais pu recourir au gens de police. »« Dame, monsieur le comte, un lieutenant général ?» interrompit le domestique avec un fin sourire. « Mais, » conclut imperturbablement monsieur de Lignière, « c'est un moyen qui me répugne. » Et avec un soupir. « On ne m'en a déjà que trop appris sur son compte. Et c'est par toi, mon fidèle Picard, que je veux découvrir... »« Découvrir quoi, monseigneur ?» interrompit le bonhomme en écarquillant les yeux. « Le reste !» Le valet de Roger avait une réelle affection pour son jeune maître qu'il avait vu grandir. Aussi, les paroles que venait de prononcer le comte firent-elles sur le serviteur une impression pénible. Picard supposait tout autre chose que ce qu'avait voulu dire monsieur de Lignière. Et c'est sans chercher à dissimuler sa tristesse qu'il hasarda. « Le reste, monseigneur, pense donc ?»« Ah, mon pauvre Picard, tu ignores les choses les plus graves !» Pour le coup, le domestique manifesta une réelle inquiétude. « Oh, le malheureux » s'écria-t-il en levant les mains au ciel. « Monseigneur me fait frémir !» Le lieutenant de police ne se donna plus la peine de rien cacher de son mécontentement. S'arrêtant devant Picard, il continua, laissant éclater sa colère. « Ce n'était pas assez des nuits passées au jeu, des petits soupers ?» de ces orgies qui te révoltaient ?» Le valet voulut protester contre cette appréciation de sa manière de juger la conduite du chevalier. « Qui me... moi » fit-il. « Permettez, monseigneur !» Mais le comte ne le laissa pas continuer, et s'animant. « Apprends qu'à la suite d'un duel... » Picard faillit tomber à la renverse. « Un duel ? Il a eu un duel ? Il n'a que toi à ignorer !»« Un duel ! Un duel !» répétait le domestique étonné. « Oui, un duel, pour je ne sais quelle femme. »« Pour une femme ?» s'exclama Picard en éclatant de joie. « Il s'est battu pour une !»« Ah, le gaillard !» Monsieur de Lignière, tout au souvenir pénible qu'il était obligé d'évoquer, ne vit pas l'expression de contentement dont le valet nuançait son jeu de physionomie. Il continua d'une voix sourde. « Il s'est battu avec monsieur de Presles qui l'a tué. » Picard n'avait pas entendu sans doute le dernier mot, car il se mit à battre des mains en criant « Bravo! Bravo! Bravo !» Le comte interrompit cette surprenante satisfaction. « Tu dis ? » interrogea-t-il. Mais Picard était décidément sous l'impression d'une irrésistible joie, car il s'écria avec enthousiasme. « Ah ah ! C'est que monsieur le chevalier est une fine lame !»« Et ce n'est pas tout !» reprit le magistrat. « Ah ben ?» demanda le domestique, dont les yeux gris pétillaient maintenant de joie. « Il y a encore quelque chose ?» Ses regards interrogeaient avec une vive et impatiente curiosité. Monsieur de Lignières eut un mouvement de colère contenu, et c'est d'un ton sec qu'il prononça ces mots. « Cette femme qui l'enlevait, l'épée à la main au marquis de Presles, il en a fait sa maîtresse !» Rien ne saurait dépeindre le saisissement qui s'empara de Picard entendant ces mots. Sa face s'éclaira, ses yeux brillèrent comme des escarboucles, sa lèvre eut un petit frissonnement de bonheur. Il se serrait les mains pour se féliciter lui-même. Et comme s'il eut, seulement alors, retrouvé la voix étranglée dans sa gorge par le fait d'une joie subite, il bégaya. « Sa maîtresse ?» Puis s'oubliant, « Nous avons une... » Il s'arrêta heureusement à temps. Monsieur de Lignières le regardait avec une expression de surprise. « Il a une maîtresse ? » reprit-il. « Ah, mais voyons donc, récapitulons donc un peu. » Il ajouta en manière d'aparté. « Un duel, une maîtresse, une petite maison sans doute, et moi qui voulais le quitter. » Ce dernier membre de phrase arriva au comte qui paraissait absorbé dans ses réflexions. Il comprit probablement que, furieux de ce qu'il venait d'apprendre, Picard se refusait maintenant à rester au service d'un maître qui compromettait de la sorte le nom de ses aïeux. Il appuya familièrement la main sur l'épaule du vieux serviteur. « Non, non, pas encore, » insinua-t-il. « J'ai besoin, comme je te l'ai dit, que tu restes auprès de lui. »« Et j'y resterai, ventre Saint-Gris !» répondit vivement le valet qui ne pouvait plus contenir sa gaieté. « Et j'y resterai, corne de veau !» Persuadé qu'il venait de remporter une victoire difficile sur les intentions bien arrêtées dans l'esprit du domestique, M. de Lignières se montra rassuré au point d'ajouter en souriant. « Tu sauras où il la cache, sa maîtresse, mon bon Picard. Je m'en rapporte à toi de ce soin. » Le valet était radieux. « Nous le saurons, monseigneur » s'écria-t-il. « Nous le saurons. Fiez-vous à moi. » Il gesticulait, se hissant sur les pointes, allant et venant dans le cabinet, comme s'il eût été subitement atteint d'aliénation mentale. Et pendant cette agitation qui ressemblait à un accès de la danse de Saint-Guy, le valet, unique dans son genre, murmurait à part soi. « Il me semble que je la vois d'ici, jeune et belle, l'air un peu insolent. » Puis se caressant le menton. « J'aime assez cela, moi. » Au moment où maître Picard se livrait ainsi à des démonstrations qui pouvaient bien, en se prolongeant, donner à réfléchir à monsieur de Lignières, la porte ouvrant sur le couloir s'était entrebâillée sans bruit. « La comtesse !» dit à voix basse le lieutenant de police, en passant près du domestique, pour aller au-devant de sa femme. « Va, et n'oublie pas mes recommandations. » « Je suis aux ordres de monsieur le comte, » répondit Picard, en s'inclinant très bas, comme s'il venait d'être chargé d'une mission qu'il honorait. Puis, après avoir également salué la comtesse, il se disposait à sortir lorsque madame de Lignières ébaucha un geste pour le retenir. Mais le comte lui prit aussitôt la main qu'il porta à ses lèvres. Et imperceptiblement, il fit signe au domestique de se retirer. Madame de Lignières vit-elle le mouvement et comprit-elle l'intention de son mari ? Toujours est-il qu'elle se laissa conduire à un fauteuil où elle prit place, tandis que le comte demeurait un peu embarrassé devant elle. Après une seconde d'hésitation, M. de Lignières commença. « Je suis heureux que vous m'ayez fait le plaisir, dit-il, de venir ici me surprendre en plein dépouillement d'un monceau de paperasse. J'allais précisément me présenter chez vous, comtesse. Et plus bas, je désirais avoir avec vous une conversation concernant... Roger ? Interrompit avec un soupir madame de Lignières. « Oui, comtesse, je voulais vous demander de le préparer avec moi à cette union que le roi veut lui imposer, » murmura tristement la comtesse. Le lieutenant de police réprima un imperceptible mouvement de mauvaise humeur. Après une pause, pendant laquelle il ne détacha pas les yeux du visage pâli de la comtesse, il répondit. « Lui imposer, dites-vous, un mariage superbe ? Qui met le comble à cette haute faveur dont Sa Majesté nous honore. » Madame de Lignières n'avait pas modifié son attitude mélancolique. Oui, une très haute faveur, en effet, soupira-t-elle. En parlant ainsi, la femme du lieutenant général de police faisait allusion à l'impunité dont avait bénéficié le chevalier de Vaudrey, sur les méfaits duquel le roi avait bien voulu fermer les yeux. Et ce soupir qu'elle n'avait pu renfermer dans sa poitrine gonflée de larmes donnait bien la note de ses maternelles préoccupations sur l'avenir de Roger. Elle n'avait pas oublié avec quelle désinvolture le chevalier avait repoussé les premières ouvertures de M. de Lignières lorsque, quelques mois auparavant, celui-ci avait parlé d'un projet de mariage. Or, depuis, la situation s'était singulièrement modifiée, obligeant pour ainsi dire le chevalier de Vaudrey, coupable, à s'incliner devant le désir de celui qui pouvait le châtier et qui lui avait fait grâce. Aussi la comtesse, ne voyant pas pour Roger d'issue autre que la soumission, ne dissimula-t-elle plus son trouble à la nouvelle que lui annonçait M. de Lignières. Elle se contenta de dire d'un ton inquiet. « Vous savez bien, monsieur le comte, que Roger a éloigné de plus en plus ses visites. Aussi lui ai-je écrit. Il va venir ici ?» s'exclama la comtesse, dont les joues, naguère encore si pâles, s'animèrent légèrement. « Oui, comtesse, vous allez bientôt recevoir votre neveu. Si toutefois, ajouta le magistrat avec une pointe d'ironie, le chevalier de Vaudrey daigne se rendre à mon invitation. En pouvez-vous douter ? Roger m'a habitué depuis quelque temps à tant d'irrégularité de sa part que... » Il n'eut pas le temps d'achever la phrase, commencée sur un ton froid et sévère. Un domestique avait ouvert la porte et annonçait. « Monsieur le chevalier !» La comtesse adressa un regard chargé de tendres reproches au nouveau venu. Roger s'avança pour poser ses lèvres sur la main que lui tendait la comtesse. Puis, s'inclinant un peu cérémonieusement vers Monsieur de Lignières, il sembla attendre que celui-ci lui adressât le premier la parole. Le comte, au surplus, manifesta sa satisfaction. « Je suis enchanté de vous voir, chevalier, » dit-il. « Je me suis empressé, mon oncle, de vous obéir au reçu de la lettre que vous avez bien voulu m'adresser, et me voici. Nous avons, » reprit le lieutenant de police, « la comtesse et moi, une importante communication à vous faire. » Roger s'efforça de sourire. « Je ne pouvais alors arriver plus à propos, » fit-il avec un léger effort dans la voix que seule la comtesse remarqua. Monsieur de Lignières avait repris son air grave, et le vague sourire, qui, un instant auparavant, avait plissé sa lèvre, s'était évanoui lorsqu'il prit la parole en ces termes. « Mon cher Roger, je suis allé hier à Versailles pour présenter à Sa Majesté l'expression de notre dévouement, à tous deux. » S'interrompant pour lancer à son jeune interlocuteur un regard significatif, il ajouta froidement. N'avons-nous pas, tous deux, à des titres différents toutefois, éprouvé la faveur royale ? Puis, apercevant une nuance de tristesse dans les yeux de la comtesse, M. de Lignières continua d'un ton moins sec. « Le roi a daigné me parler de vous. « De moi ? » demanda vivement le chevalier, en ne simulant qu'un profond étonnement. « Il vous porte, malgré tout, le plus grand intérêt. J'en suis très reconnaissant à... C'est confondu que vous devriez dire, chevalier. » Et satisfait d'avoir donné cette leçon à Roger, M. de Lignières continua. « Sa Majesté veut vous nommer à un poste important et vous marier. » Les regards de la comtesse se croisèrent aussitôt avec ceux du chevalier de Vaudrey. C'est probablement dans les yeux suppliants de sa tante que Roger puisa la modération nécessaire, car il ne manifesta que de la surprise dans le ton dont furent prononcés ces deux mots. « Me marier ?» Mais Madame de Lignières avait bien compris, elle, à l'air de son mari, que c'était pour elle le moment d'intervenir dans une conversation qui ne pouvait continuer sans éclat de part et d'autre. Elle s'était levée et passant son bras sous celui du chevalier. « Je conçois, mon ami, » dit-elle, « que cette nouvelle vous surprenne, qu'elle vous effraie même un peu. » Puis baissant la voix. « Car trop souvent, hélas, le cœur n'est pas consulté dans ces sortes d'unions. » « Mais, » ajouta-t-elle avec effort, « le vôtre, Dieu merci, n'aura pas à se faire violence. » « Oh, ma chère tante !» voulut interrompre Roger. Mais Madame de Lignières, sur un signe de son mari, poursuivit. « Jeunesse, beauté, fortune, rien ne manque à la femme que le roi vous a choisie. » Monsieur de Lignières remercia la comtesse par un sourire. Puis à son tour, s'adressant à Roger. « Et pour vous en donner la preuve, je n'ai plus qu'à vous nommer Mademoiselle de... » Le chevalier de Vaudrey avait fait un pas vers le comte pour l'empêcher de continuer la phrase. « Ne prononcez pas ce nom, mon oncle, » dit-il avec vivacité. Je désire ne pas le connaître. Le lieutenant de police feignit de ne pas comprendre exactement la pensée qui animait si fort le chevalier. Pourquoi, demanda-t-il simplement, vous tairai-je ce nom? C'est celui d'une personne qui me ferait, je n'en doute pas, beaucoup d'honneur en m'accordant sa main, déclara M. de Vaudrey. Aussi n'est-ce pas cette personne? C'est le mariage que je refuse. Vous refusez? Fit M. de Lignières, dont les lèvres pâlirent. Le chevalier leva résolument les yeux sur son interlocuteur et prononça d'un ton ferme. « Absolument, monsieur le comte. » Certes, le lieutenant de police n'était pas d'humeur à prendre ce jour-là des précautions oratoires pour dire à son neveu ce qu'il avait mûrement résolu depuis quelque temps déjà. Toutefois, il eut égard à la présence de la comtesse. Il se contraignit pour ne pas laisser éclater son ressentiment. « Avant de vous prononcer avec cette énergie, riposta-t-il, croyez-moi, chevalier, réfléchissez !» et s'efforçant même par condescendance pour Madame de Lignières de s'adoucir encore. « Je sais qu'il faut faire la part de la jeunesse, de l'entraînement, et qu'il est bon de fermer les yeux sur certains écarts. » Le chevalier courba la tête. « Mais à la condition, toutefois, continua le lieutenant de police, que ces écarts ne soient pas de longue durée. » Regardant Roger, « ce mariage est un honneur que Sa Majesté veut bien vous faire, ainsi qu'à nous. Et quand le roi a parlé, le chevalier de Vaudrey se redressa. « J'irai, répondit-il avec fermeté, j'irai remercier Sa Majesté de ses bontés. J'irai mettre à son service ma personne, mon dévouement et ma vie. Mais je vous le répète, monsieur le comte, je veux rester libre. » Monsieur de Lignières ne se contint plus. Les yeux pleins de flammes, il se croisa les bras en s'écriant. « Libre ! Libre de mener une vie de désordre ? Qu'il ne vous sera pas toujours possible de tenir secrète ?» À son tour, Roger fixa sur son oncle un regard où se lisait un reproche pour la blessure faite à sa dignité. Il répliqua sans hésitation. « Il n'y a rien dans ma vie que je veuille cacher, rien dont je doive rougir. » Le comte de Lignières toisa son neveu d'un air de souveraine sévérité. Il semblait qu'il eût voulu, en ce moment, reprendre son rôle de lieutenant de police pour formuler cette réponse. « En êtes-vous bien sûr, chevalier ?» L'intention était trop visible. Cette réplique sévère arriva au gentilhomme comme une sanglante allusion. Le chevalier bondit sous le coup qui le cinglait. « Monsieur » s'écria-t-il en faisant un pas vers Monsieur de Lignières. Mais la comtesse s'était levée avec précipitation. Toute troublée, elle intervenait entre les deux hommes dont les regards irrités se croisaient. « Roger » dit-elle en se plaçant résolument devant son neveu, vers lequel se tendait sa main tremblante, puis se tournant vers Monsieur de Lignières. « Monsieur le comte, je vous en conjure, permettez !» La voix suppliante de sa femme eut le pouvoir de faire tomber instantanément la colère du comte. Monsieur de Lignières eut compassion de la souffrance qu'il lisait sur les traits de celle chez qui il suivait, depuis si longtemps, hélas, la marche ascendante d'une maladie mystérieuse. Il ne voulut pas mettre cette nature languissante à une trop rude épreuve en poussant plus loin cette conversation qui tournait à la violence. « Soit, fit-il, nous reprendrons plus tard cet entretien. » Puis regardant Roger moins sévèrement cette fois. « Je ne veux pas encore désespérer de votre raison, chevalier, de votre obéissance. Mais, continua-t-il avec hauteur, rappelez-vous que je suis le chef de la famille, que son honneur est sous ma garde et que je ne souffrirai pas qu'on lui porte atteinte. » Au moment où Roger de Vaudrey allait riposter, la comtesse lui saisit vivement la main. Au contact de cette main fiévreuse qui frissonnait dans la sienne, le chevalier s'arrêta. Il baissa la tête devant le regard si triste de la comtesse, tandis que le lieutenant de police, qui s'était lentement dirigé vers la porte, se retourna et prononça ces mots. « Je vous laisse avec votre tante, monsieur. Je connais votre affection, votre respect pour elle. Peut-être ses conseils auront-ils sur votre obstination plus de poids que les miens. » Et pour affirmer la confiance qu'il emportait d'une solution satisfaisante à la question qui venait d'être soulevée, « À bientôt, dit-il. Chevalier, à bientôt !»